il y a une volonté aujourd'hui chez certains dans l'islam, et pas dans tout l'islam indonésien, donc plus précisément chez certains musulmans en Indonésie, de voir triompher un islam politique aux dépens d'une modernité politique qui voudrait qu'effectivement la démocratie qui est en place dans ce pays depuis 1998, la chute de Suharto, donc c'est une démocratie encore récente, hein, mais qui est bien vivante. Derrière cela, il y a un conflit assez fondamental qui est celui-ci, c'est que le nom institutionnel de l'Indonésie, c'est la République unitaire d'Indonésie. Unitaire parce que justement elle doit faire l'unité entre ses différentes composantes ethniques, linguistiques et religieuses. Donc cette minorité de 10% de chrétiens et cette majorité de 87% de musulmans.
Alors justement, on est à quelques mois d'élections régionales en Indonésie. Quel est le poids de cet islam radical dans le scrutin ?
Les musulmans extrémistes, les organisations qui les représentent, notamment le Front des défenseurs de l'islam et quelques autres, voudraient que cette république unitaire d'Indonésie se transforme un jour prochain en une république islamique d'Indonésie. Donc il y a véritablement un débat politique extrêmement vigoureux actuellement aujourd'hui. Dans les faits, dans les urnes, ces formations politiques ne passent pas la rampe. Elles peuvent s'imposer sur la scène publique, éventuellement médiatique, mais elles ne se transforment pas en un poids politique dans les urnes lorsque les citoyens sont amenés à voter, puisque les formations extrémistes plafonnent à moins de 15%. Donc il y a un combat actuellement qui revient sur le devant de la scène parce qu'on est en campagne électorale aujourd'hui en Indonésie.
Les islamistes radicaux ont tout de même réussi à rassembler des milliers de personnes dans la rue plusieurs fois ces dernières semaines contre le gouverneur de Jakarta qui est inculpé de blasphème sur le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de cet islam radical en Indonésie ?
Oui, la menace est tout à fait réelle, en ce sens qu'effectivement il y a une capacité de mobilisation très forte et ces extrémistes capitalisent sur le fait que l'actuel gouverneur de Jakarta cumule d'une certaine manière et avec beaucoup de guillemets deux handicaps ou deux tares aux yeux de l'électorat musulman. En ce sens qu'il est sino-indonésien, donc c'est un indonésien mais d'origine chinoise, une minorité qui est très présente en Indonésie mais qui est mal perçue tout au long de ces derniers siècles. Il est également chrétien et protestant. Cela n'a pas empêché d'être élu en 2012, confirmé en 2014 et aujourd'hui il se représente devant les électeurs. Les élections auront lieu en février, le 15 février 2017. Vous voyez, on est en pleine campagne électorale. Ce gouverneur est populaire. Il est populaire parce qu'il s'est attaqué aux problèmes concrets de la population, les embouteillages qui sont gigantesques à Jakarta, le problème de l'investissement dans les infrastructures, le problème de la corruption également. Et enfin, et c'est sans doute pourquoi il est attaqué aussi actuellement, il tient à mettre fin effectivement aux agissements à Jakarta de ce front des défenseurs de l'islam qui veut imposer une vision rigoriste de l'islam à l'ensemble de la population. Donc un ensemble de facteurs qui fait que ce gouverneur est actif, il est entreprenant, il est populaire, il se représente devant les électeurs et aujourd'hui les islamistes l'attaquent non pas sur son bilan, qui est plutôt positif, mais sur le simple fait de son appartenance à cette double minorité chrétienne et d'origine chinoise.
Et dans ce contexte de période préélectorale, de fait, la religion prend quelle place dans le débat politique de la campagne ?
La place de la religion n'avait pas vocation à occuper une place de premier plan dans la campagne, puisque justement le gouverneur et l'ensemble des habitants veulent finalement que les problèmes auxquels ils sont confrontés trouvent une solution, des problèmes tout à fait matériels, tout à fait concrets, et faute de pouvoir effectivement présenter un autre bilan, les responsables des organisations extrémistes musulmanes veulent mettre le débat sur le terrain de la religion. Donc ils ont mis en avance où ils remettent en avant cette double appartenance minoritaire du gouverneur, chinois et chrétien. Ils mettent en avant le fait que, durant la campagne électorale, le gouverneur a appelé les musulmans à dépasser un certain nombre de prescriptions du Coran en disant qu'il était tout à fait licite pour eux de voter pour un non musulman. Et du fait de ces déclarations qu'il a tenues en septembre, ces organisations l'ont attaqué en justice et la police a instruit, a ouvert une enquête et l'a mis en examen. Donc les choses vont assez loin. Donc oui, le terrain de la campagne s'est déplacé sur le terrain religieux, alors qu'à la base, il n'avait pas de raison de l'être.
Outre le gouverneur, bien sûr, les chrétiens ont aussi été visés ces dernières semaines dans le pays. Je pense notamment à l'attaque contre une église à l'île de Bornéo. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la liberté religieuse, le respect de la liberté religieuse et peut-être même la démocratie en Indonésie aujourd'hui ?
Non, je ne crois pas que la situation soit au point de s'inquiéter. Effectivement, il y a des actes extrêmement répréhensibles. Cet attentat qui a eu lieu sur une l'église protestante à Bornéo, c'était à des milliers de kilomètres de Jakarta. Donc des actes très graves. En même temps, la police agit. Le 28 novembre, elle a arrêté 9 membres, 9 Indonésiens suspectés de liens avec Daesh, avec l'organisation de l'État islamique, qui cherche à s'implanter dans la région. Donc il y a des éléments extrémistes, il y a des éléments terroristes également qui sont à l'œuvre et qui visent à créer un climat de terreur, ou en tout cas un climat qui antagoniserait les relations entre les minorités. Aujourd'hui, la démocratie, on peut le penser, est relativement forte et implantée en Indonésie pour que ces menaces ne se concrétisent pas. Nous le verrons en février prochain si les électeurs effectivement reconduisent ce gouverneur. En 2012 et 2014, ils avaient été suffisamment mûrs, entre guillemets, pour dépasser effectivement ces questions-là, parce que le gouverneur avait déjà été attaqué sur son appartenance à la religion chrétienne et à sa minorité d'origine chinoise, et ce n'avait pas empêché les électeurs de le porter à la tête de la ville de Jakarta, un poste qui est très important, puisqu'il est souvent un marchepied vers des fonctions plus hautes. L'actuel président de l'Indonésie, Joko Widodo, était lui-même précédemment gouverneur de Jakarta.